La France de Pétain. Le maréchal Pétain reprend du service alors qu'il est déjà entré dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quatrième âge. La France qu'il dirige est celle de la collaboration, bien davantage au début tout au moins que celle de la résistance. L'occupant n'éprouve aucune difficulté à obtenir de la police française l'arrestation des juifs et de la milice l'espionnage des réseaux de résistance. De son côté, le général de Gaulle, que concurrençait le général Giraud, devient, en 1943 à Alger, chef du gouvernement provisoire de la République française. La terre ne ment pas. Pétain décide d'installer le gouvernement à Vichy. Albert Lebrun se retire en 1944. Il sera arrêté par les Allemands et déporté. Pierre Laval, le vice-président du Conseil, décide alors de modifier la Constitution, ce qui met fin à la Troisième République. Elle laisse la place à l'État français et à sa devise « Travail, famille, patrie ». Le 10 juillet, une large majorité parlementaire vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui devient alors le chef de l'État détenant tous les pouvoirs. Toute une propagande, orchestrée par l'amiral Darlan, dauphin de Pétain et vice-président du Conseil, diffuse jusque dans les plus petits villages de France la célébration de la personne du maréchal autour d'un passé glorieux et du mythe rural de la « terre qui, elle, ne ment pas ». Terre dont la fécondité doit se communiquer aux hommes et aux femmes qui plaisent au maréchal lorsqu'ils lui présentent leurs nombreuses familles. Un hymne est composé, dont les premières paroles sont déjà tout un programme. « Maréchal, nous voilà !» Les nouvelles générations sont encadrées dans des chantiers de jeunesse. Tout cela constitue ce qui porte le nom de révolution nationale, mais ne remporte qu'un succès de façade.
Plume de corbeau. Les Français vont s'installer peu à peu dans une confortable collaboration avec l'occupant. Les fournisseurs s'empressent de répondre à ses besoins, d'autant plus qu'ils paient bien et content. Le service des postes fonctionne lui aussi à plein régime. Des lettres sans signature arrivent tous les jours dans les commandantours. On y dénonce le voisin qui cache des juifs, celui qui ravitaille la résistance. On révèle la véritable identité d'un étranger qui vient d'arriver sous un faux nom. On précise où se trouve l'aviateur anglais qui a été récupéré dans la nuit. On ajoute que l'argent parachuté pour la résistance a disparu. On se venge d'un amour déçu. Bref, beaucoup de villes, petites ou grandes, beaucoup de villages sont devenus des corbeautières où s'installent des haines tenaces qui souvent vont se transmettre sur plusieurs générations. Cependant, la collaboration n'empêche pas les occupants de se livrer au pillage économique de la France, avec pour conséquence des denrées contingentées et distribuées contre des cartes de rationnement. Ce système permet le développement du marché noir. Des denrées devenues rares sont vendues sans scrupule à prix d'or par ceux qui les possèdent ou par des intermédiaires. Un tel fait du marché noir ? Oh, vite ! Mon encre noire et ma plume de corbeau !